dame dehors veut m'arracher le cœur. Laisse-moi dans mon bunker, bunker. Quand je me regarde, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure, frère. Laisse-moi dans mon bunker, bunker, bunker.
Il est sorti. Il est sorti.
Privé de sortie. Privé de sortie.
Privé de sortie.
Privé de sortie.
Privé de sortie. L'émission des confinés de Marseille.
Privé de sortie.
Privé de sortie.
Privé de sortie.
C'est l'émission des confinés de Marseille en direct depuis un appart confiné, bien sûr.
Salut la MIF, bienvenue sur Privé de sortie en ce lundi pluvieux sur Mars. On espère que vous gardez le moral.
Salut, salut la
MIF. Salut tout le monde.
Et alors, ces derniers jours, on a assisté à un véritable festival de violences policières. On vous avait évoqué ce flic qui allait tirer tranquillement sur son voisin pour du tapage nocturne. Ce qu'on a appris après, c'est que ce type a été jusqu'à se vanter sur Snapchat avec une photo avant de descendre avec le pistolet dans la ceinture et une deuxième juste après son tir avec des traces de sang sur le sol. Elle est marquée « J'ai tiré ». Tranquillou, le mec tire sur son voisin et s'en vante sur Snapchat. Il a été mis en examen, mais relâché direct, et on apprend par la presse qu'il est un peu voyou, mais que c'est un chic type. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et le présent n'en finit pas d'être une dystopie, une sorte d'utopie à l'envers. Alors ce week-end, à Villeneuve-la-Garenne, il y a eu aussi ce type qui a manqué de perdre sa jambe, parce qu'un commissaire de police a tout de même jugé bon d'ouvrir la portière de sa voiture pour le punir de rouler sans casque. La préfecture s'est encore empressée de justifier cet acte complètement inconsidéré, en réécrivant l'histoire façon IGPN. On les cite. Voulant procéder à son contrôle, l'équipage a ouvert la portière avant droite. Le motard manquant de renverser le chef de bord a heurté la dite portière du véhicule de police pour finir sa course dans un poteau. Du coup, si on a bien compris, ce serait donc un motard qui a manqué de renverser une voiture de police. Ça se passe de commentaires. On pouvait s'en douter, cette énième injustice que subissent les quartiers populaires n'est pas restée sans réaction. Ça a bien chauffé sur place à Villeneuve-la-Garenne, mais aussi en Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois, à Saint-Ouen, à Villepinte, en Essonne, à Aigly, dans les Hauts-de-Seine, à Gennevilliers et sur Rennes, dans le Val-de-Marne, à Fontenay-sous-Bois et dans le quartier de la Rainerie à Toulouse, avec des tirs de mortier, des incendies et des affrontements contre les flics. Ça commence donc à chauffer dans les banlieues françaises qui subissent, comme on l'a déjà décrit ici, un couvre-feu plus strict qu'ailleurs, alors que les conditions du confinement y sont par définition plus difficiles avec le surpeuplement, la vétusteté des locaux et la situation sociale des habitants. En tout cas, le pouvoir n'en démord pas. Dès le dimanche matin, des agents récupéraient des preuves sur les lieux de l'accident. Comme ils sont jugés partis, on se doute qu'il est surtout question de maquiller les traces de ce que la police a fait. Le soir même, pendant les émeutes, des journalistes étaient intimidés, parmi lesquels le reporter Tara Bouraf, qui a été violemment interpellé, pour être relâché finalement un quart d'heure après. Et puis, des membres de la police judiciaire étaient sur place dès le lendemain et analysaient les moindres projectiles à la recherche d'empreintes. La justice ne se fera pas, mais la répression est déjà en route. Comme d'hab. Aujourd'hui, dans Privé de sortie, on va parler de plein de trucs, dont ces histoires de violences policières. L'émission est un peu confuse comme un lundi pluvieux à Marseille sous confinement, mais c'est normal.
C'est pas vrai.
On écoutera les chroniques de R et de PF qui, elles, sont pas trop confuses, contrairement à nous. On reviendra sur la crise du Covid-19 en Équateur. On vous lira une tribune sur la situation en Afrique. Et on écoutera le troisième épisode du feuilleton radiophonique des copines qu'on vous passe habituellement le week-end. Bienvenue.
Yes, bienvenue la MIF, on enchaîne avec les numéros de téléphone habituels.
Ouais, alors d'abord, si vous voulez nous contacter, on a le mail, notre mail c'est pvsortie@riseup.net. Pour les numéros utiles en ce qui concerne les violences faites aux femmes, le numéro national c'est le 3919, par SMS c'est le 114. Le centre d'info droit et femmes et familles à Marseille c'est le 04 96 11 07 99 de 9h à midi et de 14h à 17h. Pour le numéro enfance maltraitée c'est le 119, c'est un numéro national. Le collectif El Mamba soutien migrant 13 tient une ligne téléphonique de 9h à 18h, c'est au 07 51 05 63 45. Le syndicat solidaire tient une ligne téléphonique ici, c'est pour les questions de droit du travail, c'est au 0805 37 21 34, et la CNTSO sur le un peu le même modèle tient une ligne au 07 72 31 93 12. Si vous êtes victime ou témoin de violences policières, vous pouvez appeler le 07 51 14 97 80. Le planning familial tient une ligne en ce qui concerne la sexualité, la contraception et l'avortement. C'est au 0800 08 11 11. L'envolée tient un topo quotidien sur les situations en prison. C'est sur l'envolée.net dans la rubrique émission de radio. Il y a un numéro d'info aussi, c'est le 07 52 40 22 48. Il y a également l'émission Parloir Libre sur Radio Galère un peu toute la semaine.
Ouais, ce sera ce soir de 20h à 21h et puis les autres jours, comme on le dit d'habitude, 20h, 21h, les lundis, mardis, mercredis, les jeudis 20h30, 22h et samedi 19h, 21h.
Voilà, n'hésitez pas à écouter les émissions pour connaître les numéros de téléphone et vous pouvez balancer vos dédicaces pour les potos ou la famille à l'intérieur ou à l'extérieur, selon... Et enfin, il y a le groupe Facebook Entraide et Solidarité dans la crise du coronavirus Marseille, si vous avez besoin d'un coup de main ou si vous voulez en donner un.
Yep, vous êtes bien à l'écoute de Privé de Sortie. Aujourd'hui, la playlist, c'est une playlist sahraoui. Et on commence tout de suite avec Tina Ruwen, le groupe le plus connu de la musique sahraoui et gnawa. Il s'agit de leur premier album qui est sorti en 92, juste après la révolte des Touaregs pour l'indépendance de l'Azawad en 92. Donc, ils sont revenus avec les armes et les guitares et ils ont pondu cet album produit à l'énergie solaire. On écoute Tina Ruwen, Zines Gourmeden.
Yeah. Ça fait 3 jours. Ça fait 5 jours. Ça fait 8 jours. Ça fait 10 jours.
Ça fait des années
qu'on est enfermés chez nous. Mais comment ils veulent qu'on tienne?
Mais c'est eux les grands malades. Pas dans leur tête ou quoi? Mais vous êtes dangereux. On va vous la mettre à l'envers.
Chronique de confinement. La semaine dernière, avec les voisins de mon immeuble, on a collé des affichettes sur les portes des immeubles du quartier. Une sorte d'appel à la solidarité pour les denrées de première nécessité. Comme il y en a beaucoup qui fleurissent un peu partout dans la ville. On s'est vu, enfin télévisionné, et on a discuté de savoir comment on pouvait s'organiser pour créer du lien et pour ne pas se laisser tomber. Au début, on ne savait pas trop comment s'y prendre, d'autant plus que personne ne voulait tomber dans une démarche humanitaire et encore moins pallier au manquement de l'État. Nous, on a un peu plus de moyens que d'autres. On se retrouve face à une situation où les gens avec qui on vit dans la ville sont complètement abandonnés. Alors on ne se serait peut-être jamais côtoyés, on ne partage pas forcément les mêmes idées, mais voilà, on en est là. On entend parler d'un instituteur que connaît une copine du voisin du dessus, qui bosse dans le quartier des Rosiers. Il suit des gamins de sa classe pendant le confinement, et il a réalisé que certains ne mangeaient qu'une à deux fois par jour. On en discute, et il a été décidé de lui filer la collecte. Sur l'affichette, on propose que les gens viennent déposer ce qu'ils peuvent ou veulent, samedi de 11h à 18h dans l'entrée de notre immeuble. De toute la journée de samedi, ça a été un défilé. Une surprise phénoménale. Des vieux, des jeunes, des riches, des pauvres, des personnes de tous horizons, genre, classe, origine confondue. Certains ont ramené des dosettes pour des machines à café, d'autres 3 patates, des couches, de l'huile et un paquet de serviettes hygiéniques. Ça a arrangé les vieux que ça se passe en bas de chez eux, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Certains s'excusent parce qu'ils ne voulaient pas faire la queue au Super U. Alors ils ont acheté 5 kilos de bananes chez l'épicier. Un truc de ouf. Au milieu de la journée, on ne pouvait déjà plus passer dans l'entrée. Les gens ne demandaient même pas où ça allait. Parce que l'important, c'est la solidarité.
Yo yo, vous êtes toujours sur Privé de sortie, c'est Radio... c'est Radio Galère, oui. C'est Privé de Galère. Vous êtes sur Radio Sortie. Merci à R pour sa chronique, ça tue.
Et ça a coupé un petit peu franc à la fin, ouais. Désolé. Bon, on a compris le propos quand même.
C'était solidarité, c'était le T qui
principe. Et là, on enchaîne direct avec les brèves. Olivier Véran, le ministre de la Santé, il veut que le coronavirus soit reconnu comme maladie professionnelle pour le personnel soignant et Castaner pour les flics. L'Académie de médecine, elle est pour que cette mesure soit étendue à toutes les personnes travaillant dans les secteurs dits essentiels, donc alimentation, transport en commun, sécurité, etc. Et les syndicats demandent que ça soit étendu à en fait, tous les salariés et fonctionnaires. La reconnaissance d'une maladie professionnelle, ça permet une prise en charge à 100% des frais médicaux et de recevoir une indemnité en cas d'incapacité temporaire ou permanente. Et en cas de décès, les ayants droit peuvent également percevoir une rente. Le second volet de la réforme de l'allocation de l'assurance chômage, pardon, donc le second volet de la réforme de l'assurance chômage a été reporté d'avril à septembre et concerne le calcul et la dégressivité des allocations. Mais le premier volet, lui, il est actif depuis novembre et il est maintenu. Il prévoit le durcissement des conditions d'ouverture des droits, c'est-à-dire il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers contre 4 sur les 28 derniers avant la réforme. Et quand on sait à quel point c'est galère de trouver du taf en ce moment, et en comptant avec la crise économique qui se prépare, le refus du gouvernement de supprimer l'ensemble de la réforme est une nouvelle attaque contre les chômeurs et les pauvres. Selon un responsable du Secours Pop, 110 étudiants et étudiantes de l'université Paris 8 se sont déplacés vendredi pour une distribution de colis alimentaires. Et ce serait plus de 1000 qui en auraient fait la demande. La crise sanitaire révèle et aggrave encore les situations de précarité qui ne datent pas d'hier. On se souvient en l'occurrence de l'étudiant lyonnais qui s'est immolé devant le Crous en novembre 2019 à la suppression de sa bourse. Et sans accès ni aux bibliothèques universitaires ni aux ordinateurs de la fac, c'est en plus le ventre vide que certains passeront leurs examens.
Et enfin, hier, Édouard Philippe, le Premier ministre, faisait une longue allocution pour faire le point sur la situation en France. Du coup, on va vous la résumer, il n'a rien dit.
ou presque.
Voilà. On va enchaîner avec la playlist. On passe du Mali à l'Algérie, comme le Sahara le fait si bien. Asnal Becharia avec Lema, c'est en live, ça s'appelle Baba Mimoun et c'est un orchestre uniquement composé de femmes. C'est pour vous et vous. Vous êtes privés de sortie, mais on s'écoute du bon son.
Ah! العسل خر عين الشبر جات صيد سعد صيدات واليوم الحد ما كاين حد هي اللي بغات
Privé de sortie.
Ah.
L'émission des confinés de Marseille.
Ça c'est bizarre. C'était Lema et Asna El Becharia avec Beba Mimoun. Voilà, de la musique du sud de l'Algérie, du peuple berbère et amazigh de tout le Sahara qui rejoint l'Algérie, la Libye, le Niger, le Mali. On en aura d'autres dans l'émission. Et on va changer de continent, on va partir du coup en Équateur où justement les copains-copines de Canal Sud à Toulouse ont réalisé l'émission qui s'appelle Pagaille, qui était aussi en direct rediffusée sur le site de La Centrale. Tous ces petits mots-clés là, vous pouvez les taper sur Google et vous allez trouver plein de choses intéressantes. L'émission Pagaille qui a fait un bon tour d'Amérique latine pour savoir comment ça se passait la situation là-bas de cette crise du Covid-19 avec notamment des régimes ultra-autoritaires et des pays qui galèrent, où les populations galèrent de ouf, ce qui crée pas mal de répression et des situations sanitaires assez désastreuses. Et donc là c'est l'interview d'une journaliste indépendante d'un média autonome on va dire qui répondait aux questions des canals sudiens et canals sudiennes. On fait un gros big up à Ju et à Sol s'ils nous écoutent. On s'écoute ça tout de suite.
Bonjour, mon nom est Loïda Carriel Espinosa. Je vis en Équateur, dans la ville de Guayaquil, qui a été l'épicentre du virus ici, dans le pays. Je suis journaliste pour des médias alternatifs et aussi projectionniste. De même que des millions d'Équatoriens, je suis en quarantaine obligatoire et je travaille depuis la maison, vu que le pays est complètement paralysé à cause du coronavirus. D'après les statistiques officielles, l'Équateur et spécialement Guayaquil avait à la date de ce lundi 13 avril 7525 cas, dont 70% sont ici à Guayaquil. Il faut aussi souligner qu'il y a des milliers de cas qui n'ont pas été enregistrés parce qu'ils n'ont pas pu faire les tests de dépistage du Covid. Il y a déjà eu beaucoup de morts comme ça et le gouvernement lui-même a reconnu qu'il y avait 450 morts qui n'avaient pas été enregistrés comme des cas de Covid, mais qui sont morts de ça. Du coup, les chiffres officiels des morts du Covid sont largement sous-estimés. Et il y aurait en fait beaucoup plus de victimes. Le confinement a commencé en Équateur le 16 mars. Ça va faire un mois. Le premier cas de Covid a été annoncé par la ministre de la Santé le 29 février. Ça venait d'une équatorienne qui revenait d'Espagne. On a beaucoup, beaucoup de liens avec l'Espagne. Il y a des milliers d'Équatoriens qui vivent en Espagne. Cette dame qui revenait d'Espagne est arrivée en Équateur le 14 février et c'est là qu'a commencé la contagion. Mais il y a beaucoup d'épidémiologistes qui disent que probablement il y avait d'autres cas qui sont arrivés avant et ça expliquerait pourquoi la contagion a été aussi rapide et aussi forte ici en Équateur et spécialement dans la ville de Guayaquil. Guayaquil et toute la côte équatorienne étaient en période de vacances. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont partis en voyage pour visiter l'Espagne ou l'Italie. Et a priori, ils auraient ramené le virus. À cette époque, il n'y avait pas de contrôle dans les aéroports pour pouvoir tester les gens. C'est un confinement du coup qui dure depuis un mois et on ne sait pas quand est-ce que ça va terminer. Il y a un couvre-feu de 2h de l'après-midi jusqu'à 5h du matin. On peut partir faire des courses mais seulement une personne par famille et les véhicules ont le droit de circuler une seule fois dans la semaine. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sortent faire des courses pour plusieurs familles d'un seul coup. Guayaquil, particulièrement, est une ville qui est le moteur économique du pays. C'est la ville qui a le port le plus grand, mais c'est aussi celle qui a le plus de pauvreté. C'est une pauvreté extrême. Et il y a des milliers de personnes qui vivent avec 1 dollar par jour, ou en tout cas avec moins de 3 dollars par jour. Du coup, bah, tous ces gens-là, c'est des gens qui ont un travail informel tous les jours. Et c'est 60% de la population qui a un travail informel. C'est des gens qui travaillent pour pouvoir s'alimenter et qui doivent travailler tous les jours. Du coup, ce confinement qui dure depuis un mois dévaste beaucoup de familles, parce que c'est facile de rester en quarantaine quand économiquement tu peux l'assumer et quand tu peux prévoir de la nourriture pour un moment. Mais c'est impossible quand tu dois sortir et que le virus est dans sa phase de contagion. Du coup, oui, c'est vraiment très difficile pour des centaines de familles de seulement rester à la maison, parce qu'elles doivent sortir travailler quoi qu'il se passe. Et du coup, eh ben, la propagation du virus continue, et spécialement dans les zones périphériques. Il y a eu plusieurs gouvernements latino-américains qui ont déclaré au début que c'était une simple grippe, une petite grippette, comme ils disaient. Et ils ne s'étaient pas rendus compte de l'étendue des dégâts. Et quand c'est arrivé ici dans le pays, ils n'ont pas réagi tout de suite. Ils ont mis 2 semaines à réagir, à mettre en place le confinement et à fermer les aéroports. Dans ces 2 premières semaines, ils ont clairement priorisé l'économie et non pas la vie. Après, ils ont été obligés de mettre en priorité la vie avant l'économie. Notre économie ne se portait pas trop mal, mais là, de fait, avec la pandémie et la fermeture de quasiment toutes les industries, elle va être complètement dévastée. Du côté du gouvernement, la ministre de la Santé a démissionné, ça fait à peu près 3 semaines. Elle a démissionné en disant que le pays n'avait pas les moyens financiers d'affronter cette crise. Mais en fait, ça a été démenti par la suite. Ça n'a pas été très clair ce qu'a dit la ministre, en fait, depuis le début de la crise. Elle disait qu'il allait arriver 2 millions de tests de dépistage. Et en fait, les tests de dépistage sont jamais arrivés. Et là, depuis que le nouveau ministre est arrivé, il a fait une commande de 6 000 tests. 6 000 tests, c'est vraiment très très peu pour une population de 17 millions d'habitants. Le pays est actuellement sous couvre-feu, ce qui signifie qu'il est militarisé entièrement. Du coup, les forces armées sortent à partir de 2h de l'après-midi pour pouvoir obliger les gens, spécialement dans les quartiers périphériques, à rester chez eux. Il y a des vidéos qui ont tourné des forces armées qui frappent, qui tabassent, qui coupent les cheveux des gens dans la rue. Et du coup, il y a l'organisation de défense des droits de l'homme ici en Équateur qui a dû faire une plainte auprès de la défenseuse du peuple. Et la défenseuse du peuple elle-même a fait une plainte plus formelle aux autorités. Et bon, ça a fait que depuis, les forces armées se sont calmées un peu et reviennent à des pratiques un petit peu plus respectables. Adicionalmente a esto, nosotros en Ecuador tenemos una gran cantidad de población migrante venezolana, cerca de 500.000 venezolanos que están acá, que ellos también viven del día al día. En plus de ça, en Équateur, il y a beaucoup d'immigrés, surtout vénézuéliens. Il y a à peu près 500 000 vénézuéliens qui sont en Équateur et qui, pour la plupart, vivent au jour le jour. C'est des gens qui sont pas des migrants légaux, qui sont sans papier. Pour beaucoup, ils ont pas de travail ou ils ont pas de maison, ils vivent beaucoup dans la rue. Et souvent, c'est des gens, c'est des familles avec des enfants et tout ça, et qui n'ont rien à manger. Du coup, il n'y a pas seulement la population équatorienne, il y a aussi la population non nationale, tous ces immigrés vénézuéliens qui souffrent terriblement de la situation. Le gouvernement n'était pas préparé, la classe politique n'était pas préparée, le pays économiquement n'était pas préparé. Et après, du côté économique, le virus a touché autant les riches que les pauvres. Il n'y a aucune différence à ce niveau-là. Ce virus a généré la mort de personnes très très riches qui ont beaucoup de pouvoir et qui sont des décideurs économiques du pays. Des propriétaires d'entreprises très très grandes du pays, des gens qui ont des patrimoines très très grands, des gens qui ont l'argent mais à qui ça ne sert à rien. Maintenant, imagine-toi qu'il y a aussi beaucoup de gens très très pauvres qui sont morts chez eux parce qu'ils n'ont même pas pu aller à l'hôpital. Les hôpitaux sont complètement débordés, il n'y a plus de place pour accueillir personne à l'hôpital. Au niveau des médicaments, par exemple, le paracétamol qui coûtait 6 centimes de dollars avant la crise, une boîte de 100, aujourd'hui, ça arrive à 25 dollars. Du coup, il y a une pénurie de médicaments, avec la corruption en plus. Il n'y a pas assez de bouteilles d'oxygène pour les gens qui sont en détresse respiratoire. Il n'y a pas de traitement. Dis-toi que la maternité la plus grande de la ville a dû fermer ses portes parce qu'elle était contaminée. Et du coup, il y a des centaines de femmes qui savent pas où est-ce qu'elles vont pouvoir donner naissance à leur enfant. Toutes les cliniques ont des cas de Covid et du coup tu peux pas tomber malade d'autre chose aujourd'hui et recevoir des soins. Et les consultations externes aussi sont fermées. Du coup voilà, c'est une situation très très critique ici à Guayaquil et le gouvernement essaye de cacher un peu des choses, des informations. Ils essayent un peu d'arranger un peu les choses, mais comme elles viennent, quoi, en parlant au plus pressé. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec tous les cadavres qui étaient dans la rue, qui étaient aussi dans les maisons, et ça a duré 3 ou 4 jours comme ça, où il n'y avait pas de solution pour eux. Bon, ça s'est arrangé un peu, mais il y a une autre crise qui arrive derrière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un problème et ils essayent de l'arranger, et puis un autre problème arrive et ils essayent de le réparer, etc.
En relación al empleo, bueno, hay muchas personas que...
Sur le sujet de l'emploi, il y a certainement beaucoup de gens qui vont se faire virer suite à cette crise. Là, pour l'instant, ça a été interdit de virer les gens, mais c'est sûr que ça va arriver parce que les entreprises actuellement n'ont plus de rentrée d'argent, elles ne font plus de recettes.
Uno de los valores que tenemos los ecuatorianos y aquí en esta ciudad de Guayaquil que...
Une des valeurs qu'on a en Équateur et à Guayaquil aussi, et qui je le rappelle, est la zone la plus touchée, c'est la solidarité. Du coup, oui, il y a beaucoup d'actions solidaires des uns envers les autres. Et pas seulement de la part des personnes pauvres envers d'autres personnes pauvres pour se partager ce qu'il y a à manger. Mais il y a aussi des gens qui ont des revenus plus confortables et qui s'organisent pour envoyer des colis alimentaires à différents endroits. C'est un pays qui a été très frappé au cours des dernières années et il y a 4 ans, on a vécu un tremblement de terre terrible, très très fort de 7,8 degrés. Et avant que le gouvernement organise une réponse, les gens, la société civile, les citoyens ont répondu en envoyant des aliments, en envoyant des médecins, des docteurs. Et du coup, le bon côté de cette crise, c'est que on voit une fois de plus que la solidarité existe ici en Équateur.
La solidaridad no solamente económica, estamos viviendo otra crisis que es el asunto del duelo.
Et on est en train de vivre une autre crise qui est le summum de la douleur. Il y a des gens qui ne peuvent pas enterrer les membres de leur famille qui sont morts. Et s'ils peuvent le faire, ils peuvent le faire au bout de quelques jours, mais ils doivent le faire tout seuls. Parce que on peut pas, en ce moment, comme on a l'habitude souvent en Amérique latine, de prendre 1 ou 2 jours pour honorer les morts et d'aller tous au cimetière, ça c'est pas possible. Du coup, une des autres formes de solidarité qui existe, malgré la distance, c'est d'être là et d'accompagner les gens qui vivent cette souffrance toute seule. Et sur le lien qu'il peut y avoir entre cette crise sanitaire mondiale et le modèle de développement, oui, c'est évident. Notre économie en Équateur, la première rentrée d'argent, c'est le pétrole et c'est les impôts. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est nous qui devons payer. Ça fait des années qu'on dit qu'il faut que le pétrole soit plus la première source de revenus du pays. Et on en voit aujourd'hui les conséquences. Un pétrole qui ne dépasse pas les 20 dollars. Et tout ça, ça va engendrer un naufrage de notre économie.
Sin embargo, es interesante ver que en América Latina, si te has dado cuenta, no hemos visto gobiernos de ultraderecha como es el de Estados Unidos y el de Brasil.
Et ceci dit, c'est intéressant de voir quand même qu'on a vu des gouvernements d'extrême droite, d'ultra-extrême droite, comme il peut y avoir aux États-Unis ou au Brésil, ou aussi des gouvernements vraiment de gauche, comme il peut y avoir au Nicaragua ou au Mexique, et qui réagissent un peu de la même manière, en fait. Ils réagissent en mettant d'abord en avant la question économique avant la question de la vie. Du coup, cette crise mondiale va forcément poser la question de quel est ce modèle de développement dans lequel on vit. Et on va devoir se rendre compte que, au final, ce sont les agriculteurs, ceux qui vivent à la campagne, qui soutiennent le pays avec leur production alimentaire. Et si eux, ils n'étaient pas là, on n'aurait pas à la maison aujourd'hui les aliments nécessaires pour pouvoir survivre. Du coup, quand on va sortir de cette crise et on va devoir en sortir, il va falloir repenser énormément de choses, tant sur le plan familial et personnel que social.
Privé de sortie.
Privé de sortie, c'est tous les jours de 16 à 17 heures sur Radio Galère.
Privé de sortie. L'émission déconfinée de Marseille.
Je sais pas vous, mais moi, sans vouloir offenser personne, je me demande quand même si dans le contexte actuel, je devrais pas aller travailler. Non, je déconne. Sauf que, de la même façon que Papa Manu m'a un peu hypnotisé la dernière fois et limite fait croire en un monde social et merveilleux, eh bien mon accompagnatrice de réinsertion professionnelle, elle est au taquet. Et va peut-être, à force, réussir à me convaincre, à me contraindre. J'arrête pas de recevoir des emails et des appels. Du plan local pour l'insertion et l'emploi, dans lequel je n'ai pas eu le choix d'être embarquée pour continuer à recevoir le RSA. Limite, dans ces courriels, la meuf, je la sens enjouée, tu vois. Et qu'elle nous envoie des offres de travail, et le catalogue de formation à distance, et qu'elle nous espère en forme. Bon, allez, je suis pas sympa. Elle a l'air très correcte, cette personne. Et elle fait son téléboulot. D'ailleurs, après cette chronique, en vrai, faut que je l'appelle. Mais l'organisme d'insertion n'est qu'un des petits maillons de la grande chaîne à exploiter les travailleurs et travailleuses de tout acabit, comme on dit. Vous avez vu? Vous avez pas vu? Le ministère de l'Agriculture et la millionnaire Fédération des syndicats agricoles FNSEA ont lancé une plateforme qui s'appelle WeezyFarm, qui fonctionne un peu comme un site de rencontre, si si, pour faire appel à la grande armée de l'ombre, que sont les personnes nouvellement au chômage et pour aller travailler dans les champs. Eh oui, c'est qu'il faut remplacer les plusieurs centaines de milliers de travailleuses étrangers ou nationaux précaires ou non déclarés, qui sont habituellement le gros de la main-d'œuvre agricole saisonnière. Mais ce serait surtout un coup de com', une fumisterie. Les petits producteurs n'ont pas dû y recourir, car ils et elles ont déjà beaucoup travaillé à adapter leur circuit de distribution. Et ce sont seulement quelques centaines d'offres qui sont en fait publiées. Vous avez vu? Vous avez pas vu? Le gouvernement et Pôle emploi ont mis une plateforme en ligne, mobilisationemploi.gouv.fr. Car certaines entreprises ont besoin de renforts en main-d'œuvre pour assurer leur activité et la continuité économique du pays. Cette plateforme regroupe les annonces des employeurs qui s'engagent à respecter des normes sanitaires strictes. Ah ouais, et les autres non. Du coup, si on ne sait pas de quoi sera fait le monde d'après, on a une idée, forcément, du travail d'aujourd'hui. Ce sont des annonces pour les infirmiers, infirmières, magasiniers, magasinières, aides-soignants, soignantes, agents, agentes de nettoyage, accompagnatrices sociales, vendeurs, vendeuses, auxiliaires de vie, agents, agentes hospitaliers. Ce sont des appels à mobilisation pour la main-d'œuvre réserviste, pour une armée de l'ombre, en mode réquisition et vocation. Alors quoi? Les établissements publics et l'État n'ont pas assez de leurs soldats au front? En vrac, et en ne parlant pas de tout le monde évidemment. Du côté de la FNSEA, justement. On avait imaginé faire appel au bénévolat ou à la mobilisation des élèves des lycées agricoles. Alors ça a été stoppé, mais jusqu'à quand? Puisque les inspecteurs du travail sont mis à pied. Et ça s'apparente d'ailleurs à ce que les étudiantes et étudiants infirmières dénoncent quant à leurs conditions de travail. Mises à disposition sur le statut de stagiaire, ils et elles sont payés selon l'ancienneté de 28 à 50 euros par semaine. Avec si peu ou pas de protection, si considérée pas à risque. Les appels et recrutements se font hors cadre légal, pour des durées dépassant les périodes officielles de stage probablement. Des étudiantes sont recrutées d'office comme aides-soignantes, sur une base volontaire, faite de pression et de chantage. Même topo pour les étudiants et étudiantes en travail social. Une personne en avait parlé à l'émission. Pareil pour les aides à domicile. Les personnels hospitaliers sont mal nourris. Les personnels soignants sont en mode DIY et doivent fabriquer et confectionner eux-mêmes leurs blouses, à partir de sacs poubelles par exemple, pour faire face à la pénurie. Dans certains établissements, des pauses de 20 minutes vont leur être imposées, dans l'optique encore et toujours de faire à terme des économies. Il y a cet infirmier qui n'en peut plus et qui refuse, qui déserte, diraient certains, de continuer le travail sans le matériel adéquat. Ces postiers-postières, enseignants-enseignantes, que l'on qualifiera de traîtres si il et elle ne retournent pas au travail. Ces femmes, car ce sont des femmes, qui se retrouvent en bonne activité domestique à coudre des masques, gratuitement, sous le prétexte fallacieux de participer à l'effort et à la solidarité. D'ailleurs, en parlant de masques, le mieux ce serait de coudre des masques polyvalents, tu vois, réversibles même. Un côté pour les courses et le jogging, et l'autre côté, noir, rose, jaune, rouge, fluo, à paillettes, pour les autres occasions. Qui ne manqueront pas, j'espère, après le confinement.
Vous êtes sur Radio Galère 88.4 FM, l'émission s'est privée de sortie.
Merci PF.
Merci à toi.
Yes.
Et on enchaîne avec une tribune qui est parue dans la revue Jeune Afrique, qui s'appelle « Le coronavirus n'a plus de vieux à tuer sur ce continent ».
Du coup, c'est un truc qu'on a lu là récemment et bah, vous allez voir, c'est un peu provocateur, mais on trouvait que c'était une réflexion intéressante. Et ça a été écrit par un écrivain ivoirien qui s'appelle Gose et c'est sorti ce 16 avril. Alors, pour endiguer la pandémie de coronavirus, l'Europe a choisi de se confiner et l'Afrique lui a emboîté le pas. Le problème se pose pourtant en termes bien différents selon qu'on habite à Paris ou à Abidjan. Il est temps que nos dirigeants fassent preuve d'indépendance et d'originalité et proposent enfin une véritable éducation populaire. La Côte d'Ivoire est un pays jeune, à l'image de tous les pays d'Afrique. Sa pyramide des âges ne ressemble pas à celle des pays occidentaux. Et toute réflexion solide pour l'exécution d'une politique publique doit en tenir compte. Les pays ayant une population jeune doivent investir davantage dans les écoles, apprenait-on au collège. On dirait que nos dirigeants ont séché les cours. L'épidémie de coronavirus apparaît dans ce théâtre. Panique générale. L'Occident se confine et se ferme. Ce n'était déjà pas facile d'y aller avant. Comme un chien devenu fou parce que son maître a peur, l'Afrique fait de même. À l'exception remarquable du Bénin, tous ses dirigeants répètent au mot près les discours des leaders européens. Quand Manu dit « con », Sall répond « finement ». Quand Angela crie « fermé », une chorale CDEAO, c'est la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, répond « les frontières ». Trembler d'effroi, trembler de peur. Puisque la peur est distillée par des chiffres, opposons-lui des chiffres. Au 30 mars en France, l'âge moyen des testés positifs au coronavirus était de 62,5 ans. L'âge moyen en service de réanimation était de 64 ans et 84% des personnes décédées étaient âgées de 70 ans et plus. C'est le moment de ressortir la pyramide des âges. Souvenez-vous, celle qu'on étudie en classe en quatrième, et de comparer. En France, 20,3% de la population a plus de 65 ans. C'est un habitant sur cinq. En Côte d'Ivoire, 3 habitants sur 100 appartiennent à cette tranche d'âge. Autrement dit, le coronavirus est une maladie de la pyramide des âges. Et les angoisses de chamalières ne sont pas véritablement celles de Gibérua. Le nord de l'Italie compte un nombre record de personnes âgées en Europe. Le coronavirus n'y pose donc pas les mêmes problèmes qu'en Chine, où le virus est apparu. Alors, imaginez-vous l'Afrique. Là commence mon vrai point. Accrochez-vous. En raison de l'âge de la population en Occident, le coronavirus y a un problème très grave. Il pose un défi civilisationnel et questionne son mode de vie et sa société. L'Afrique n'est pas concernée de la même façon pour la simple raison que, depuis 60 ans, l'incurie de ses hommes politiques, l'avidité des places financières, les foutaises des plans d'ajustement dits structurels, toutes les ambitions à la petite semaine d'aventuriers sans foi ni loi ont déjà fait le travail. Il n'y a plus de vieux à tuer sur ce continent. En Afrique, l'espérance de vie ne dépasse pas 62 ans. Le Niger et l'Ouganda ont 15 ans d'âge moyen. Oui, vous avez bien lu, et vous pouvez vérifier. L'Afrique a 20 ans. Chaque jour, sa jeunesse est un atout vendangé, parce que la mort précoce est un talent continental. Un quinquagénaire à Bouaké est un miraculé. Dans mon Babi natal, depuis la fac, on m'appelle « Vieux Père Gose ». Une des chansons qui font danser les assemblées religieuses s'intitule « Mon nom est écrit là-haut, là-bas ». Le gars ou la go qui fait la liste ne chôme pas. Devoir vivre dans le voisinage de sa propre mort, la contempler en tant que réelle possibilité, telle est, en partie, la terreur que suscite le confinement chez beaucoup. J'ai lu à haute voix cette phrase d'Achille Mbembe, à ma bande d'artisans de Grand Bassam, et on a ri. Ils sont convaincus que l'auteur est gaulois ou anglo-saxon, parce que vivre dans le voisinage de sa propre mort est notre sort depuis des lustres, cadeau de nos politiques. On comprend très bien les peuples meurtris d'Europe et d'Amérique. On est solidaires, et on sait qu'ils vont s'en sortir, eux qui depuis si longtemps savent penser à eux seuls, à leur aisance matérielle, eux qui ont couru le monde des siècles durant et qui ont bâti la préciosité de leur vie sur la négligence de celle des autres. Ils vont s'en sortir. Ils ont le matériel politique, historique et culturel pour. Nous ne vivons pas le même combat. Nous ne faisons pas la même guerre que ceux qui ont travaillé si dur pour que leur population vive le plus longtemps possible en profitant des bienfaits de leur système. Définitivement non. Il n'y a pas de vieux à tuer chez nous. Pauvre coronavirus. Ainsi, il ne peut pas y avoir chez nous la même réaction contre l'épidémie qu'en Allemagne ou en Espagne. Sans proposition fine, on ne peut pas confiner une population, au demeurant peu menacée, qui n'a pas plus de 2 repas en réserve. Sans proposition fine, on ne peut pas confiner un individu qui ne peut pas trouver à manger s'il ne sort pas de chez lui. Sans proposition fine, on ne peut pas confiner de la même façon un jeune abobolé et un vieux municois. Les dirigeants africains ratent une belle occasion de faire preuve d'intelligence, d'originalité et d'indépendance, de fabriquer un discours subtil, d'imposer une nouvelle hygiène intellectuelle et sanitaire. Le moment est idéal pourtant pour proposer une véritable éducation populaire en lieu place des médiocres et coûteuses communications gouvernementales. Politique vide du Covid, amateurisme de haut niveau. Les autres trouveront et on suivra. En attendant, effrayons-nous de leur psychose. En réalité, les dirigeants du continent ont une réaction de classe. Classe sociale, classe d'âge. Ils sont plus près des Européens qu'ils admirent que des Africains qu'ils dirigent. En moyenne, un président africain est âgé de 64 ans et demi. Il est au pouvoir depuis 11 ans et dirige des gamins de 20 ans qui ne vont pas dépasser la soixantaine. En guise de conclusion, et pour que les grands penseurs ne montent pas sur leur petit canasson, je vais préciser les choses que ce texte ne dit pas. Il ne dit pas que c'est bien fait pour l'Europe. Il ne dit pas que le confinement est une mauvaise chose. Il ne dit pas que le Covid-19 ne tue pas de jeunes. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de malades du Covid-19 en Côte d'Ivoire. À ceux qui racontent que cette crise va changer les choses, qu'il y aura un avant et un après, à vous qui découvrez la critique de la société de consommation et confiez les lendemains de meilleur aux soins d'une molécule d'ARN, je rappelle juste cette date, 2008, et ce proverbe malinqué, le chien ne change jamais sa façon éhontée de s'asseoir.
Yes, une tribune très intéressante et on va enchaîner avec Bombino, un chanteur et musicien nigérian. Donc il vient du Niger, du nord du Niger, et qui s'inscrit aussi dans cette musique sahraoui avec le titre Adinat. On revient derrière et on avait annoncé en début d'émission qu'on passerait l'épisode 3 de la série qu'on nous a proposé ces derniers temps. On n'aura pas le temps court vite. On essaye de la programmer pour ces prochains jours, on vous tient au courant. Bombino, Adinat. Allez, on reprend puisqu'il nous reste plus que quelques minutes avec un communiqué de presse qui a été relayé par le collectif Urgence, notre police assassine, et qui nous dit « Au moins 7 plaintes ont été déposées ces derniers jours pour des faits de violence policière dans le contexte de confinement que connaît actuellement le pays. Depuis la mi-mars, les témoignages et vidéos montrant des interpellations violentes ne cessent d'inonder les réseaux sociaux. De Strasbourg à Marseille, en passant par Les Ulis, Torcy, Aubervilliers ou encore Montreuil, à chaque fois les mêmes images, des hommes et des femmes, souvent jeunes, insultés, frappés, tasés par des agents des forces de l'ordre ou du désordre, comme on veut. » Il s'appelle Ramatoulaye, Shems Eddin, Sofiane, Yassim, Mohamed et Walid. Il et elle viennent de Torcy, des Ulis, d'Aubervilliers, de Montreuil, de Montceau-les-Mines ou de Saint-Pierre-des-Corps. Leurs histoires sont sensiblement différentes, mais ils et elles ont tous et toutes fini avec plusieurs jours d'ITT et un important traumatisme psychologique après avoir été violemment interpellés par des policiers ces dernières semaines. Ils ont donc décidé de porter plainte. Pour elles et eux, comme pour les proches et les avocats qui les accompagnent dans leur démarche, rien, absolument rien, ne peut justifier les violences et les méthodes que les flics ont employées à leur encontre. Ni l'absence d'attestation, ni l'utilisation d'une attestation manuscrite au lieu d'une attestation imprimée, ni le non-respect du confinement, ni les tentatives d'échapper aux policiers ne peuvent expliquer, légitimer ou justifier de tels déchaînements de violence de la part d'agents que l'on dit dépositaires de l'autorité publique. En plus des insultes racistes, des attouchements et des humiliations, plusieurs victimes de ces violences policières racontent qu'elles se sont vues mourir, qu'elles n'arrivaient plus à respirer, qu'elles ont eu peur pour leur vie. Cela pose une question fondamentale. Contre qui l'État est-il en guerre ? Contre le coronavirus ou contre les habitants des quartiers populaires ? Contre le coronavirus ou contre celles et ceux qui n'ont pas le bon patronyme, la bonne couleur de peau ou la bonne adresse ? Consciente que ces affaires sont loin d'être des cas isolés, et que les habitants des quartiers populaires subissent une pression policière continue depuis des décennies, les victimes et leurs proches ont décidé d'unir leurs forces, et d'articuler leur combat collectivement. Ils invitent toutes les personnes qui ont eu à subir des abus policiers ces derniers jours à se constituer partie civile et à les rejoindre. Ils estiment que ces violences ne doivent pas rester impunies et que, loin d'en protéger les habitants, l'état d'urgence sanitaire tel qu'il est appliqué dans les quartiers populaires les met, au contraire, en danger. Plus d'infos, vous pouvez retrouver sur le Facebook du collectif Urgence Notre Police Assassine. Il y a une cagnotte Litchi qui a été ouverte pour aider financièrement ces plaintes à aller jusqu'au bout, même si on a quand même on n'est pas naïf et on a peu d'espoir dans ce que ça aboutisse dans des condamnations pour les keufs. Mais la cagnotte Litchi est ouverte, on mettra le lien sur notre page Facebook. Il nous reste une minute pour conclure.
Bah, big up la MIF, on vous souhaite une très bonne semaine.
Courage, la force à toutes et à tous dans cette merde de confinement. On est là.
Et portez-vous bien. Ciao, ciao, demain.
Des bisous, à demain 16h sur la même antenne.
Aïe.
Privé de sortie. C'est l'émission des confinés de Marseille en direct depuis un appart confiné, bien sûr.